This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هاتو جلوبو.
From CNN Radio 7.
من راديو داشا.
O Brasil quer se filmar.
Turquia, fotora, burlava,
Россия.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui au Japon. Enquête de Karine Poupée sur le phénomène Haruki Murakami, auteur culte, vous le savez, de best-sellers mondiaux. En Birmanie, portrait d'un chirurgien œcuménique signé Rémi Favre. Une histoire dans le monde à 18h55, Anthony Bélanger ce soir en Tunisie. Mais tout de suite, direction la sixième puissance économique mondiale, le Brésil.
France Inter. Un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Le Brésil, où la présidentielle s'est terminée hier soir par la victoire sur le fil de Dilma Rousseff, 51,64%. Elle revient de loin, de très loin, quand on pense qu'au début de la campagne, le scénario d'une réélection dès le premier tour semblait tout à fait crédible. Alors on va revenir ce soir sur cette victoire à l'arraché, ce qu'elle veut dire pour la gauche brésilienne, et essayer aussi de voir quels sont les dossiers urgents qui attendent maintenant Dilma Rousseff. Les invités d'un jour dans le monde, ici à Paris, Stéphane Monclerc, que je salue, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, spécialiste du Brésil, et en direct également, mais à Rio de Janeiro, Carlos Milani, qui est politologue, professeur de relations internationales à l'Institut d'études sociales et politiques de cette belle ville. Il est tout proche, juste à côté d'Olivier Poujade, du service étranger de France Inter. Olivier, bonsoir, vous nous avez fait vivre cette élection en direct. Une petite question pour commencer sur l'ambiance hier soir, une fois que les résultats ont été connus, c'était la fiesta dans les rues où tout le monde est allé faire dodo très vite.
Bon alors, ça dépend hein. Très clairement. Les militants d'Aécio Neves, les sympathisants d'Aécio Neves, eux ont clairement rasé les murs. On ne les a pas vus dans la ville de Rio. Et les sympathisants de Dilma, eux, se sont rassemblés par petites poches dans différents quartiers de la ville. Nous étions à Flamengo, mais nous n'avons pas observé une explosion de joie hein, comparable à celle de l'élection il y a 12 ans, en 2002, de Lula, ou même il y a 4 ans, la première élection en tant que première femme présidente du Brésil de Dilma Rousseff. C'est une joie mesurée, certainement, due au fait que le résultat était extrêmement serré, on le rappelle.
Oui, c'est ça. Victoire sur le fil, vous nous l'avez raconté sur l'antenne de France Inter. Quelle est, du coup, la tonalité, Olivier, de la presse brésilienne aujourd'hui ?
Bah globalement, la presse brésilienne revient là-dessus. C'est principalement ce qui fait les gros titres aujourd'hui. L'élection la plus serrée de toute l'histoire de la démocratie, une jeune démocratie brésilienne. C'est ce que retiennent aujourd'hui la plupart des grands journaux qui mettent aussi en avant, là, à la mi-journée, la panique hein, des marchés financiers. La bourse brésilienne chute de 12%, moins 15% pour l'action Petrobras, la compagnie pétrolière publique plongée tout au long de cette campagne dans un scandale de corruption. Des médias qui suivent leur ligne habituelle, une ligne qui n'est pas celle de Dilma Rousseff.
Alors, on va essayer de regarder d'un peu près maintenant la sociologie du vote et du scrutin. Stéphane Monclerc, une infographie circulée aujourd'hui sur Internet et présentée cette fameuse sociologie. Les très pauvres, les pauvres, les classes moyennes inférieures ont voté Dilma Rousseff et c'est l'inverse pour Aécio Neves. C'est caricatural ou on peut quand même le dire comme ça ?
Non, on peut le dire comme ça et jamais l'électorat avait été aussi clivé. Jamais il ne s'est était réparti entre les candidats en fonction des niveaux d'instruction, en fonction des niveaux de revenus. Alors, cela a une explication. Les politiques publiques mises en place pendant les 8 ans de gouvernement Lula, puis élargies par le gouvernement Dilma Rousseff, ont un impact qui n'est pas considérable sur la réduction des inégalités sociales. À côté de ça, il y a les hausses de salaire minimum, il y a la croissance économique, mais toute la communication institutionnelle gouvernement met l'accent sur ces politiques sociales et donc une partie de la population la plus pauvre, même si l'extrême pauvreté est quasiment éradiquée au Brésil, s'estime reconnaissante envers Dilma Rousseff. Mais attention, il ne faut pas être illusionné. S'il y a encore 4 ans, une grande partie des pauvres votaient déjà pour Dilma Rousseff, à l'époque, elle lui était reconnaissante, elle était reconnaissante à Lula. C'est-à-dire que ces populations tendaient à recevoir ces programmes d'aide sociale, ces politiques redistributives, comme un don du ciel, un don d'un État qui le personnifiait en Lula et Dilma Rousseff.
Il y avait un enchantement politique et démocratique.
Et maintenant, de plus en plus, il y a des tas d'enquêtes qualitatives qui le montrent. Une partie de ces populations commence à considérer que ces politiques sont des dus. Et du coup, si c'est un dû, ben, il n'y a pas de contre-don. Alors, elle s'estime moins redevable. Et il est fort probable, dans les mois qui viennent, que compte tenu des difficultés économiques qu'affronte le Brésil, compte tenu du chômage qui va augmenter, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, les couches populaires soient déstabilisées et abandonnent, pour une partie d'entre elles, Dilma Rousseff. D'où la nécessité pour la présidente de se tourner vers l'électorat qui n'a pas voté pour elle, mais qui n'a pas les mêmes valeurs, pas les mêmes aspirations, pas les mêmes demandes que son électorat traditionnel.
Alors ça, on va y venir. Un mot du perdant. On repart à Rio de Janeiro. Carlos Milani, d'abord un point sur la sociologie du vote et ensuite sur, je dirais, l'état maintenant du Brésil après une campagne aussi dure, aussi violente, aussi rude entre les deux candidats.
Bonjour, je voudrais d'abord juste faire le point sur la différence de voix entre Dilma Rousseff et Aécio Neves. Et je suis allé voir les différences de voix qui existaient en 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est à peu près les mêmes pourcentages. Si on pense que Dilma Rousseff a fait 51,64% des voix valables ici au Brésil cette année, François Hollande en avait fait 51,63%, c'est-à-dire une différence de 0,01%.
Vous faites bien de le rappeler, ça a été souligné d'ailleurs dès la victoire de François Hollande. Et depuis, vous qui connaissez si bien la France, vous savez que la droite estime qu'avec une semaine de plus, elle aurait gagné l'élection. Je ferme la parenthèse et je vous laisse finir et repartir au Brésil.
Et du coup, je pense que c'est vrai, je suis d'accord avec Stéphane Moncler quand il rappelle qu'il s'agit des résultats les plus serrés, les plus difficiles en termes de différence de voix entre les deux candidats dans l'histoire de la redémocratisation du Brésil depuis la constitution de 88. Mais c'est un peu le parangon qu'on voit dans d'autres démocraties. Aux États-Unis aussi, la différence de voix en 2012 entre Obama et Mitt Romney a été de moins de 3 millions de voix. Donc je pense que le Brésil est d'une certaine façon rentré dans la sphère des démocraties libérales consolidées, c'est-à-dire on est sorti du processus de redémocratisation et on vit un moment où les voix se partagent, se divisent entre deux projets politiques bien différents, entre deux façons de concevoir l'insertion internationale et les modèles de développement du pays de façon très différente. Je suis d'accord avec des taux de croissance moins élevés, mais avec une politique d'inclusion sociale plus forte.
Il y a un léger décalage dû à la liaison satellite. Nous ne sommes pas tout près de vous. Nous sommes ici en studio à Paris et vous à Rio de Janeiro au Brésil. Mais gardez la parole, Carlos Milani. Un mot du perdant, Aécio Neves. Il a perdu de peu. Il a perdu pourquoi, d'après vous ?
Je pense qu'il a perdu parce que la population brésilienne a fait un choix pour un projet politique qui était différent de celui qu'il proposait. Je pense qu'il y a une association sur laquelle la campagne électorale de Dilma Rousseff a joué très fortement, c'est-à-dire voter sur et pour Aécio Neves pourrait signifier revenir à un passé dont nous gardons parfois des souvenirs pas forcément exclusivement positifs, c'est-à-dire le moment des 8 années de la présidence de Fernando Henrique Cardoso, qui certes a contribué énormément à la stabilisation macroéconomique du pays, mais qui n'a pas fait beaucoup d'investissements en matière de politique publique, d'éducation, santé, etc. Donc je pense qu'il y a, la campagne de Dilma Rousseff a joué sur ça, c'est-à-dire la différence entre Cardoso et Lula plus Dilma, et le choix a été fait de très près, c'est vrai, c'est très serré, mais le choix a été fait pour un projet politique et de développement qui est différent.
Stéphane Moncler, votre analyse de la défaite d'Aécio Neves ?
Oui, je ne suis pas sûr que les Brésiliens se soient prononcés sur des projets. D'abord parce que la campagne électorale n'a pas été une campagne de propositions. si on fait les statistiques du contenu des émissions de campagne officielle et puis des insertions commerciales, on va dire des publicités des partis politiques diffusées depuis des mois, on s'aperçoit qu'environ 12 à 13% de ce temps d'antenne, qui est très important si on les additionne au cours de la journée, est consacré à des propositions. Le reste du temps, les candidats tentent de vendre leurs images. Alors ça, je suis d'accord avec Carlos, que je salue d'ailleurs. C'est un trait des démocraties de postmodernité. C'est un trait du marketing électoral très net. Et le Brésil, de ce point de vue-là, montre qu'il est tout à fait au courant de ces techniques de mobilisation.
Et au standard de toutes les démocraties libérales, comme le disait Carlos Milani.
Tout à fait. Mais ce n'est pas en faisant que pendant 12 minutes des propositions que les Brésiliens vont avoir une vision très claire de ces propositions. Et elles ne sont pas si différentes que ça sur tout un ensemble de questions. Toutefois, il y a des enjeux importants, mais qui sont d'une abstraction trop élevée pour une grande partie de la population. Je pense par exemple au statut de la Banque centrale. Expliquer aux électeurs jusqu'à quel point la Banque centrale doit être pleinement autonome pour fixer le niveau d'inflation tolérable, pour fixer le taux de base bancaire, ce n'est pas une question facile. Et en plus, ça a des tas, en fonction des arguments avancés, ça a des tas d'effets collatéraux sur tout un ensemble d'indices macroéconomiques. Ce n'est pas facile à dire ça à la télévision, à une population qui n'a pas le rang, quant à son niveau d'instruction, des populations, des pays émergés de sa taille, qui sont concurrents du Brésil. Il y a un problème au Brésil qui est le niveau de qualification de la population, mais aussi du corps électoral. C'est une population qui a fait de grands progrès. Je ne suis pas en train de dire que les Brésiliens sont bêtes, attention.
Mais ça, on l'a bien compris.
Ce que je suis en train de dire, c'est que plus le niveau d'éducation et d'instruction de la population brésilienne s'élève, plus la qualité du débat politique, théoriquement, peut s'élever. Mais on peut regretter aussi que, au Brésil, il n'y a pas beaucoup de débats entre les candidats, de débats chiffrés. Du genre, vous promettez ça, mais vous le financez comment? Qui va payer? Il n'y a pas beaucoup de programmes de ce genre. Toutefois, ça c'est important et Carlos pourrait en parler, il y a des municipalités au Brésil qui imposent aux candidats pour les élections municipales de venir avec des promesses chiffrées et de dire comment elles paieront ça? Alors, c'est des initiatives locales. Ça serait bien que ça s'étende au niveau national.
C'est très intéressant ce débat sur la nature même, la qualité, je dirais, de l'espace public brésilien. Quelle analyse en faites-vous, Carlos Milani?
Je suis partiellement d'accord avec Stéphane, que je salue aussi d'ailleurs. Je pense que l'espace public brésilien, il est très sous contrôle des médias corporatifs, c'est-à-dire des médias privés qui n'ont pas forcément des visions très différentes sur ce que fait le gouvernement. On a l'habitude de dire ici, dans des milieux plutôt critiques et de gauche, que les médias brésiliens tels que Estado de São Paulo ou Globo, Folha de São Paulo, sont en fait ensemble le plus grand parti d'opposition politique qu'on peut avoir ici au Brésil. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment en termes de spectre politique et idéologique, des médias très 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 divers au Brésil. Et cela joue sur la construction de la représentation sociale, des visions que puissent avoir les Brésiliens sur ce qui se passe au Brésil en termes de réalité politique et sociale. Sur la question de la Banque centrale que mentionnait Stéphane Moncler et que, bien évidemment, qu'il serait très difficile pour n'importe quel candidat ici au Brésil ou peut-être même en France ou ailleurs de faire la part des choses sur quel rôle peut jouer une Banque centrale complètement indépendante telle que vous en avez une à Francfort pour toute l'Europe. Ici au Brésil, la Banque centrale, elle est autonome, mais elle n'est pas complètement indépendante. Et je pense que ce jeu de mots a été mentionné pendant la campagne électorale. Il y avait une pièce publicitaire faite par le Parti des Travailleurs qui était vraiment qui allait dans ce sens d'essayer de communiquer à la population d'origine très simple quels seraient les effets d'une totale indépendance de la Banque centrale. Et la pièce publicitaire, qui est très, très courte et très simple, montrait que si la Banque centrale devenait, si jamais elle devenait complètement indépendante, ce ne seraient plus les gouvernants, c'est-à-dire le président, la présidente de la République, qui pourraient décider la politique macroéconomique du pays. Et que donc la politique macroéconomique, avec tous ses effets sur les politiques de développement, serait sous contrôle d'une banque qui n'est jamais élue par le peuple. Et cela a été dit. Hein, et dans la pièce publicitaire, je ne sais pas si Stéphane Moncler a eu l'occasion de la voir à la télé, c'était intéressant de voir que la nourriture disparaissait de la table des gens. Hein, et donc, il y avait un lien très fin entre la capacité ou le manque de capacité du gouvernement de faire politique publique due à une indépendance totale de la Banque centrale en termes de contrôle de prix, en termes de politique de change, en termes de politique monétaire, et la capacité d'acheter des aliments par les gens. Et autour de la table, il y avait une famille composée de personnes noires. Hein. Donc c'était vraiment dans le sens d'essayer de toucher par une pièce publicitaire, avec bien sûr énormément de simplifications, mais aussi quelques vérités, que si jamais nous avions une banque complètement indépendante, une banque centrale complètement indépendante, modèle banque centrale européenne, peut-être que nous n'aurions plus l'occasion de faire politique publique, comme c'est aussi le cas dans beaucoup de pays européens qui ont adhéré à ce modèle que vous avez en Europe.
Oui, alors c'est important de relever et de souligner combien donc la campagne a pu être aussi pédagogique à certains moments, d'une certaine manière. Stéphane Moncler, passons maintenant aux urgences. Y a quoi comme dossier lourd et épineux sur la table d'une présidente qui ne connaîtra pas d'état de grâce ?
Alors, le premier, c'est évidemment sortir le Brésil de la récession technique dans laquelle il est. On prévoit une croissance, les marchés, mais ils se trompent rarement sur les prévisions de croissance, les marchés. Ils prévoient une croissance de 0,27% du produit intérieur brut pour 2014. C'est très peu compte tenu de tous les atouts dont dispose le Brésil. Et c'est très peu compte tenu des défis qu'il doit relever. Alors, pour faire redémarrer la croissance, ça ne va pas être facile. Parce qu'il n'y a pas vraiment une reprise internationale, et le peu de reprise qu'il y a ne s'accompagne pas d'une hausse du prix des matières premières qu'exporte le Brésil. De sorte que si en 2003, Lula avait profité d'un contexte international favorable,
très porteur,
et ça avait permis, de contrebalancer le choc de l'ajustement fiscal qu'il avait alors appliqué au pays, là, il va falloir un ajustement fiscal, mais ça ne va pas être compensé par la croissance mondiale.
Avec des marchés financiers qui ont l'air extraordinairement nerveux, nous disait Olivier Pouja tout à l'heure. Alors, c'est pas la vérité révélée, mais c'est un signe parmi d'autres.
Il y a tout un ensemble de choses qui ne vont pas et qui ne sont pas récentes. Par exemple, sans entrer dans des débats trop techniques, le taux d'épargne est beaucoup trop bas par rapport aux autres pays émergés ou concurrents du Brésil, sans parler des pays du Nord. Quand le taux d'épargne est trop bas, ça complique le financement du crédit des entreprises, des petites et des moyennes entreprises. Il y a un autre problème, plus grave encore. Le faible investissement des entreprises du secteur industriel en matière de recherche et de développement. Ça, c'est récurrent au Brésil et ça a pour conséquence une perte de plus-value, d'avantage des produits made in Brésil. Et de sorte que la balance commerciale du secteur industriel est depuis de nombreuses années et chaque fois plus déficitaire.
Et ce que vous décrivez ne se règle pas comme ça d'un coup de baguette magique.
Oui, et en plus, faire ça suppose tout un ensemble de mesures incitatives, mais des mesures qui ont des contre-coûts économiques qui font perdre des clientèles. On pourrait dire aussi qu'une des urgences, c'est d'essayer toujours de favoriser l'agro-business brésilien, qui est en vrai boom, qui heureusement compense les pertes du secteur industriel. Mais attention, ce dynamisme du secteur de l'agro-business, il tient essentiellement à l'utilisation massive de pesticides qui gorgent les sols de produits nocifs, et puis à l'utilisation massive de produits transgéniques dont on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors peut-être que le futur va inventer à moyen terme des technologies qui vont gommer tous ces effets, mais ce n'est pas sûr que l'agro-business soit systématiquement en poupe au Brésil. Il y a le pétrole aussi, le fameux pétrole en eau profonde, ce qu'on appelle le pré-sal. Il y a là un investissement fantastique fait au Brésil avec des joint
joint venture avec différentes entreprises, Total notamment. Alors, c'est très beau, ça devrait rapporter beaucoup de royalties, mais attention...
On n'y est pas encore.
Les plateformes commencent à être construites, mais elles n'ont pas encore été installées. Et si une catastrophe écologique arrivait ? C'est arrivé pour certaines compagnies pétrolières en Atlantique Nord ou en Pacifique. Et dans ce cas-là, le programme ne pourrait pas être aussi rentable que prévu. Donc, ces incertitudes, tout ça, ça plombe l'économie brésilienne. Et on ne peut pas relancer l'économie sans faire d'ajustement fiscal. Et ça, ça fait des dégâts sociaux et politiques.
Carlos Milani, on lit ici à Paris qu'il y a aussi de très lourds chantiers politiques et institutionnels que Dilma Rousseff doit empoigner maintenant afin que la démocratie brésilienne fonctionne encore mieux. Qu'en est-il exactement ?
Oui, je pense que l'annonce faite par la présidente hier, à la fin, quand les résultats ont été annoncés, c'est que la grande priorité de son nouveau gouvernement va être la réforme politique. Et bon, la réforme politique comprend entre autres le débat sociétal très important et dont on manque ici au Brésil sur le financement privé public des campagnes électorales. Ça, c'est un sujet majeur. Le renforcement des institutions de contrôle dans le combat contre la corruption, tels que la police fédérale et le ministère public. Et pour sortir un peu du chantier exclusivement politique, je suis d'accord avec Stéphane Moncler que le grand défi va être de nature économique. Mais il ne faut pas oublier que, bon, au-delà de tout ce que vient de dire Stéphane Moncler, il y a aussi le soutien qui peut venir du projet qui a été approuvé cette année par le nouveau groupe BRICS, de création d'une banque de développement des pays BRICS. Donc il y aurait d'autres sources de financement aussi pour les entreprises brésiliennes au-delà du marché financier privé international.
Alors après ces questions économiques, moi j'aimerais juste qu'on regarde, et ce sera la dernière question que je vous poserai à tous les deux, les questions, on va dire, intellectuelles ou idéologiques. La gauche brésilienne est dans quel état aujourd'hui, Stéphane Moncler ? Est-ce qu'elle est à bout de souffle ? On voit que le coup n'est pas passé loin. Est-ce que c'est une crise idéologique ou c'est simplement lié à l'usure du pouvoir ?
Bon, de l'usure, il y en a nécessairement. Voilà déjà plus d'un siècle que de grands sociologues ont pointé ce qui se passe lorsqu'un parti reste au pouvoir. Une professionnalisation, des intérêts politiques croissants et le parti des travailleurs qui autrefois était un parti tout à fait nouveau, tout à fait intéressant, avec une très forte démocratie interne, c'est peu à peu sclérosé, devient de plus en plus un parti comme les autres.
Et institutionnalisé.
Oui, et puis en plus, il participe à des schémas de corruption. Alors, c'est pas, faut pas généraliser, c'est pas tous les élus du PT qui sont dans ce cas-là, mais enfin, il y a quand même des cas importants qui écornent fortement l'image de ce parti.
Mais est-ce qu'il y a une crise intellectuelle de la gauche brésilienne ?
Il y a plus beaucoup d'idées. Et puis, Carlos évoquait la banque de développement des BRICS. Je pense qu'on va avoir un infléchissement de la politique étrangère brésilienne assez rapidement, car... le Brésil, depuis le second mandat Lula et tout au long du premier mandat de Dilma Rousseff, a privilégié les relations au sein de l'Amérique du Sud et d'une certaine façon au sein de l'Amérique centrale. Il a mis une grande partie de ses billes sur l'OMC en espérant que le cycle en discussion à l'OMC se résolve et que enfin les produits brésiliens agricoles puissent s'être développés. Et puis ça n'a pas marché. Et donc il n'est pas impossible que, même si c'était le programme d'Aécio Neves, que le Brésil commence à remettre un petit peu de bilatéralisme, ou en mettre un petit peu plus, dans ses relations avec les États-Unis, avec l'Union européenne, et abandonne un petit peu le Mercosur. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais ça renvoie à des conceptions intellectuelles des cadres du Parti des Travailleurs, ça renvoie à une vision des États-Unis comme... pays, grande puissance qui veut l'Amérique aux Américains, qui veut que l'Amérique latine soit le jardin des États-Unis. Donc il y avait beaucoup d'anti-américanisme, un anti-américanisme relativement pondéré, mais il y en avait encore au sein du PT. Et bien là, il va falloir qu'une partie des cadres, et surtout des militants, les vieux militants, il en reste encore quelques-uns du PT, avalent cette nouvelle couleuvre. Il y a une crise d'identité de ce parti, mais ce n'est pas la seule formation politique brésilienne. qui passe par là.
Et ni la seule gauche qui est en crise à travers le monde.
Crise, ça, c'est
absolument certain. Merci beaucoup Stéphane Monclerc. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste du Brésil à Rio de Janeiro. Était avec nous Carlos Milani, également politologue, professeur de relations internationales à l'Institut d'études sociales et politiques de cette belle ville. Et Olivier Poujade, que je salue et remercie chaleureusement. C'est grâce à vous, Olivier, qu'on a pu vivre cette passionnante présidentielle brésilienne sur France Inter. Avant de filer vers le Japon, on reste au Brésil avec Os the Drama Lovers. Un jour dans le monde sur France Inter, 18h41. Brésilien Dos the Dharma Lovers, juste avant de filer à Tokyo, le phénomène Murakami.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde, sur France Inter.
Haruki Murakami, le prolifique écrivain japonais dont les livres se vendent par millions d'exemplaires dans son pays, évidemment, mais aussi à travers le monde. Murakami est en effet traduit en une cinquantaine de langues. Son lecteur sont de véritables fans, comme on le dirait pour une rockstar. Ils forment une communauté soudée par un univers littéraire qui ne ressemble à aucun autre, à mi-chemin du fantastique, de la science-fiction, mais aussi de quelque chose de profondément japonais. Murakami est rare dans les médias. Karine Poupée, la correspondante de France Inter à Tokyo, a pu le rencontrer, cet homme discret qui préfère, vous allez l'entendre, le temps long de l'écriture au temps court de la parole. Karine Poupée à Tokyo.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est que les livres que j'écris soient encore lus 10 ans plus tard. C'est la chose la plus importante.
Tous les Japonais connaissent l'auteur de La Ballade de l'Impossible, Kafka sur le rivage ou 1Q84, mais peu ont déjà entendu la voix de Haruki Murakami. L'homme est discret, secret, il ne se montre pas, refuse presque toutes les interviews, ne passe jamais à la télé ni à la radio.
Je ne peux pas parler en peu de temps. Je suis un homme qui écrit. Je réfléchis beaucoup, je revois à maintes reprises ma copie avant de pouvoir publier quelque chose. Mais je ne suis pas trop doué pour parler.
Murakami est un homme singulier qui vit dans son monde, un univers littéraire à part, confirmait récemment à la télévision le professeur Hosea Hirata.
Il y a comme un mur transparent autour de lui. C'est un être qui est habité par la littérature.
Pour autant, Murakami n'est pas un vieil ermite. Au contraire, c'est un bien bel homme de 65 ans qui en fait 10 de moins. S'il préserve sa vie privée, c'est pour mieux sortir incognito, courir, assister à des matchs de baseball, sa deuxième passion après la musique. Ce grand voyageur, qui vit la moitié du temps hors du Japon, est, selon ceux qui le côtoient, un personnage des plus agréables, comme en témoigne son éditeur Shigeki Okawa.
Parce que c'est un auteur très important, travailler avec lui est une expérience absolument incomparable. Sa présence est si forte que j'ai le trac à chaque fois que je le rencontre. Cependant, c'est vraiment très agréable de travailler avec lui. C'est aussi un personnage fantastique, humainement parlant.
Murakami, c'est la star de la littérature contemporaine japonaise, celui à qui l'on promet chaque année le prix Nobel. Et il ne fait rien comme les autres, tout à sa façon unique. Et s'il transgresse les règles pourtant très rigides de l'édition au Japon, c'est avec le consentement de son éditeur, qui ne peut d'ailleurs guère faire autrement.
Ce qui différencie Murakami des autres auteurs, c'est qu'il n'aime pas écrire des romans sur commande. Il donne ses livres à l'éditeur une fois qu'il les a écrits. Le manuscrit arrive soudainement, un jour sous mes yeux, à ma grande surprise. Ah tiens, voilà le dernier. Et à partir de là, mon travail commence. C'est un écrivain unique.
En plus de 30 ans de carrière, Haruki Murakami, qu'il ne faut pas confondre avec Ryu Murakami, a écrit une trentaine de romans et recueils de nouvelles qui se vendent par millions et pas qu'au Japon. Murakami décide tout, il n'y a pas à y revenir.
Le titre aussi, c'est lui, dès le départ. C'était écrit « L'incolore Tazaki Tsukuru et ses années de pèlerinage ». Il n'y avait qu'à dire « Ah bon ».
Murakami a une capacité phénoménale à balader le lecteur entre univers réel et imaginaire, entre passé, présent et futur, avec une exceptionnelle dextérité. À l'écouter, si contrairement au précédent roman 1Q84, son plus récent long ouvrage, L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, est réaliste, c'est par hasard. Il ne choisit pas, ce sont ses personnages qui le guident dans l'écriture, mais selon son éditeur, c'est d'abord parce que Murakami est un véritable stakhanoviste.
Ce n'est pas du tout le genre de type à dire « ça ira bien comme ça ». Il réfléchit jusqu'à ce que n'existe plus qu'une possibilité. La meilleure, sans relâche. C'est un perfectionniste.
Le résultat, ce sont les romans les plus lus dans l'archipel ces dernières années, qui touchent un très large lectorat grâce à trois éléments.
La profondeur, l'intérêt et la diversité. Dans les histoires de Murakami, il y a des développements que personne ne peut deviner. Ce n'est pas seulement excitant, c'est un contenu unique à Murakami. C'est ça qui est extraordinaire. Son travail est universel, il parle à toutes les civilisations. C'est un grand auteur contemporain, mais en même temps, il a un fond de sensibilité japonaise.
Sumimasen. Murakami Haruki no hon no onnai shite kudasaimasen ka?
Trouver les ouvrages de Murakami dans les librairies nippones, c'est à la fois simple, il y en a des montagnes à l'entrée pour le dernier sorti, et compliqué car les précédents existent en plusieurs versions publiées chez divers éditeurs.
Nous ne rangeons pas par auteur, mais par éditeur.
Il y en a tant que ça, je ne pensais pas.
Ah oui, oui, vraiment beaucoup.
Pour autant, les plus fidèles lecteurs, eux, s'y retrouvent et on redemande, tel Miwa Shingyouchi, une inconditionnelle.
Dès qu'un nouvel ouvrage est publié, je veux le lire tout de suite. C'est peut-être dangereux d'ailleurs, car après la lecture, il m'arrive de ne pas pouvoir dormir. C'est dangereux. J'ai l'impression d'être prise dans son monde.
Tous ont les mêmes mots à propos des romans de Murakami. Ils leur parlent, ils parlent d'eux.
Il y a certes un peu d'imaginaire, de science-fiction, mais ça n'est pas purement réaliste. C'est en fait très étroitement lié à notre vie réelle, au monde contemporain, à la société actuelle. Tout cela est fortement exprimé.
Et Murakami d'être devenu malgré lui un auteur culte sans égal avec des admirateurs qui ont formé pour lui un néologisme harukiste.
Harukiste, c'est un terme qui n'est que pour lui. Il n'y a rien de tel pour les autres écrivains. C'est une façon unique de parler des femmes. Harukiste est un terme qui ne désigne pas les spécialistes de Haruki Murakami, mais ses lecteurs ordinaires, les plus admiratifs et fidèles. C'est aussi quelque chose qui différencie Murakami des autres.
Haroukiste de tous les pays, unissez-vous. Voilà pour ce portrait-reportage de Karine Poupée à Tokyo. Et permettez-moi un mot pour vous signaler cet éditorial du New York Times en date d'aujourd'hui. C'est un édito consacré à une ténébreuse affaire de pillage par les nazis de tous les biens d'une famille juive allemande. Des immeubles, de l'argent, mais aussi et surtout une impressionnante collection de céramiques et de tableaux, des chefs-d'œuvre signés par exemple Degas, Renoir ou encore Monet. Ténébreuse affaire parce que les propriétaires de ces tableaux, la famille Kainer, sont morts à la fin des années 60 et qu'aucune recherche sérieuse de descendants, d'ayants droit ou d'héritiers n'a été faite à l'époque par la banque suisse en laquelle les Kainer avaient toute confiance. Certaines de ces toiles se sont donc retrouvées sur le marché, comme les danseuses de Degas vendues à prix d'or en 2009. En toute transparence, disent les vendeurs, à ceci près que les ayants droit n'étaient même pas au courant. Patricia Cohen mène l'enquête pour le New York Times et souligne que des plaintes ont été déposée et que ce sera donc désormais à la justice américaine de démêler l'écheveau de fondations, de paperasserie, de mauvaise volonté manifeste afin peut-être de restituer ces biens à leurs propriétaires. A noter que l'affaire n'aurait pas été soulevée sans le travail de la Mondex Corporation, citée dans l'éditorial du New York Times, cette entreprise qui se fait une spécialité de restituer les biens pillés à leurs propriétaires, car après avoir connu l'enfer de la spoliation, il y a l'enfer de la récupération et de la réparation qui donc en 2014 n'est pas encore une affaire classée. Hasard total du calendrier, le même New York Times dans son édition d'hier cette fois, publiait un long article d'Eric Lichtblau sur les anciens nazis engagés par le FBI et la CIA après la Seconde Guerre mondiale pour devenir des espions américains. L'histoire n'est pas nouvelle, mais la déclassification d'archives secrètes permet de mieux cerner l'ampleur du phénomène. On parle au minimum d'un millier de nazis ayant travaillé, mais ayant aussi été protégés quand les chasseurs de nazis, y compris américains, s'approchaient d'eux de trop près. Parmi ces nazis, des hommes impliqués dans l'extermination des Juifs d'Europe, notamment dans ce qu'on appelle la Shoah par balle, c'est-à-dire la première forme épouvantablement efficace de mise à mort des Juifs avant la généralisation des chambres à gaz. Sur ces nazis au service des Américains, un livre sort dans quelques jours aux États-Unis. Il est probable qu'il fera du bruit car il éclaire aussi d'une lumière crue, très crue, les méthodes du FBI et de la CIA au temps de la guerre froide. C'est à lire en ligne sur le site du New York Times. La fabrique du Nouveau Monde, entre les mains cette semaine des correspondants de France Inter à l'étranger. Aujourd'hui, la Birmanie pour le portrait d'un chirurgien, Tin Myo Win, un chirurgien bouddhiste qui travaille dans un hôpital musulman avec des infirmières hindoues et chrétiennes. Bref, une atmosphère totalement œcuménique alors que la Birmanie est rongée depuis 3 ans par des conflits entre bouddhistes et musulmans. Ce chirurgien a fait le choix de venir en aide à tous, bénévolement. C'est sa propre contribution à la paix, sa façon à lui de changer le monde. Portrait signé Rémi Favre à Rangoon.
Tin Myo Win donne ses instructions à son infirmière. Le matin, il rend visite à tous ses patients, alités dans une grande salle. Pas de blouse blanche, le chirurgien de 63 ans porte le longji, la jupe traditionnelle birmane et une jolie chemise à fleurs.
Aujourd'hui, il y a 8 opérations, dont une patiente qui souffre d'un cancer du sein.
Avant de passer au bloc opératoire, le médecin consulte dans une petite pièce autour d'une tasse de thé, un canapé, 2 chaises en bois, un bouquet de fleurs posé sur son petit bureau.
J'ai décidé de travailler ici car c'est un véritable hôpital de charité. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas la chance d'avoir des soins médicaux, en particulier les prisonniers politiques et leurs familles. Je suis moi-même un ancien prisonnier politique. J'ai été en prison de 1989 à 1992. Je suis un fervent bouddhiste. Selon l'enseignement du Bouddha, il est bon d'offrir ses services si l'on en a la capacité et l'opportunité. Je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer le monde qui m'entoure. Il y a presque 60 millions de personnes dans ce pays. La majorité d'entre elles sont pauvres. Elles ont besoin de soins, de santé. Je fais de mon mieux pour satisfaire ces besoins, c'est tout.
C'est tout, mais il le fait bénévolement. Quelques opérations dans le secteur privé, de temps en temps, lui suffisent pour subvenir à ses besoins. Tin Myo-win travaille avec des collègues de toutes les religions, alors que des groupes extrémistes musulmans et bouddhistes s'affrontent aux quatre coins du pays.
I've operated many Buddhist monks, you know, and all the respected religious people.
J'ai opéré de nombreux moines bouddhistes et des dignitaires religieux, des mollahs, des religieux hindous, des prêtres. Parfois, ils sont allongés côte à côte et ils se mettent à discuter. Et nous sommes très heureux de voir cela. Parfois, des moines bouddhistes sont très réticents à l'idée de laisser leurs novices se faire soigner ici.
Parce que c'est un hôpital musulman.
Oui, mais ils réalisent que le personnel ici ne prête pas attention à qui est bouddhiste, qui est chrétien. Des gens des services de renseignement viennent ici et acceptent mes soins.
Alors que vous êtes très proche de l'opposition.
Oui, ils me font confiance, c'est bon signe.
Sa recette, eh bien, c'est un dévouement très important et du temps, beaucoup de temps. 22 années de service bénévole à l'hôpital musulman gratuit de Rangoon qui lui ont apporté une grande renommée. Chez les anciens militaires actuellement au pouvoir, chez les rebelles des armées ethniques qu'il soigne aussi, et dans les cercles d'opposition, car Tin Myo-win est aussi le médecin personnel de la députée Aung San Suu Kyi.
Joli portrait signé Rémi Favre à Rangoon.
Un jour dans le monde... sur France Inter.
Et même une histoire dans le monde. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Élection hier au Brésil, on en parlait tout à l'heure, mais aussi en Tunisie, ce pays qui décidément trace sa route.
Et quelle belle route Nicolas, rendez-vous compte. La Tunisie est le seul des 6 pays du printemps arabe, à savoir l'Égypte, la Syrie, la Libye, le Yémen et le Bahreïn, et donc la Tunisie, le seul pays donc à parachever sa transition démocratique sans coup d'état militaire, sans chaos, sans guerre civile. Et en plus, en donnant une belle leçon de maturité politique. D'abord, un taux de participation qui n'a rien de ridicule, 60%, alors que beaucoup disaient que les Tunisiens voteraient avec leurs pieds, ils ont eu tort. Ensuite, le résultat de ces premières législatives, 38% pour le parti laïque Nihda Noutounes contre 31% pour les islamistes d'Ennahda, c'est-à-dire une nette avance pour l'un, une défaite relative pour l'autre, mais rien d'écrasant, les deux devront composer. Composer, ça veut dire gouverner en coalition, pas ensemble, hein, mais enfin trouver une coalition qui, pour un pays encore fragile politiquement, eh bien c'est une bonne garantie de stabilité. Bref, décidément, la Tunisie ne ressemble à aucun autre pays arabe.
Et justement, comment on explique cette singularité ?
Alors, c'est très drôle cette question parce que c'est justement celle que l'on pose en permanence à l'actuel président tunisien, Moncef Marzouki, et il répond systématiquement, c'est structurel. Alors bon, c'est un peu court, mais je vais essayer de vous expliquer ça en trois points. D'abord, l'armée. Contrairement à l'Égypte ou à la Syrie, la Tunisie est une armée qui ne se mêle ni de politique, ni d'économie. Depuis Bourguiba, les militaires ont été soigneusement écartés de toute fonction publique ou économique. Alors, bien sûr, c'est l'armée qui a sauvé la révolution du jasmin en 2011, notamment en refusant de tirer sur le peuple et en raccompagnant tranquillement Ben Ali à l'aéroport, mais sitôt sorti dans les rues du pays, sitôt rentré prudemment dans ses casernes. Ensuite, il y a le syndicat. Comme nulle part ailleurs dans le monde arabe, la Tunisie dispose d'un syndicat puissant, ancien et surtout légitime, avec plus de 700 000 adhérents. Ce syndicat, c'est l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'UGTT. Or, on l'oublie toujours, mais les révolutions arabes ont été accompagnées de mouvements sociaux très durs. Des grèves, des blocages d'usines, des manifestations. Et en Tunisie, cette question sociale a été traitée grâce à l'UGTT. Enfin, il y a bien sûr les Tunisiens, un peuple politique comme il y en a peu, un peuple qui a su descendre dans la rue à chaque fois que, par exemple, eh bien, les islamistes voulaient pousser leur avantage, un peuple mieux éduqué, plus citoyen, moins polarisé, toujours parier sur l'intelligence des peuples, Nicolas.
Merci Anthony Bélanger.